France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
La défenseure des droits, Claire Hédon, est avec nous ce soir et elle est vénère. Dans ce qu'on appelle une décision cadre, c'est-à-dire un rappel du droit pour tous, elle recadre littéralement les employeurs du privé comme du public et les renvoie à leurs obligations en matière de discrimination dans l'entreprise. Que l'on parle de racisme, que l'on parle de propos sexistes, que l'on parle de se moquer des handicaps, que l'on parle d'agisme, les employeurs, si l'on en juge par les signalements qui remontent chez la défenseure des droits, sont parfois en service minimum quand une victime s'adresse à eux. Le service minimum, ça veut dire qu'on a effectivement identifié un cas de harcèlement, mais qu'on se contente souvent de muter ou de déplacer la victime quand les enquêtes sont bien ouvertes. Visiblement, il faut une méthodologie pour les entreprises afin que les choses soient bien claires pour tout le monde. La défenseure des droits donne 50 recommandations, nous y viendrons, qui vont de l'obligation de communiquer à tous un dispositif de signalement, une adresse email, un bureau, une personne dédiée, en fonction évidemment de la taille de l'entreprise, à l'obligation aussi d'une enquête interne. Elle rappelle qu'un signalement anonyme ne doit pas empêcher son traitement par l'employeur. Elle rappelle qu'il faut anticiper sur l'état de santé de la victime lorsqu'elle est là ou lorsqu'elle revient. Elle redit que la victime doit pouvoir ne pas côtoyer la personne qu'elle accuse de harcèlement pendant la durée de l'enquête. Si vous êtes victime dans ce cadre-là, ces obligations-là, vous devez les connaître. Et si vous êtes employeur aussi. Après, est-ce que c'est aussi facile que ça en a l'air ? Évidemment que non. Il y a de multiples cas particuliers. Allez-y d'ailleurs, appelez-nous. Comment fait-on, par exemple, quand on est une petite entreprise, qu'on est 3 ou 4 personnes, séparer les gens, ça devient extrêmement compliqué. Comment on fait en l'absence totale de preuves ? Bref, bien sûr qu'il y a des zones grises, mais les recommandations de Claire Hédon nous rappellent combien, en 2025, nous avons encore du boulot dans la lutte contre les discriminations au travail. C'est le téléphone sonne et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Allez, une fois n'est pas coutume, je vous salue d'abord Claire Hédon.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous, la défenseure des droits. Bien sûr, c'est vous. La première question vient de WhatsApp, c'est Maya qui nous l'a envoyée et qui nous dit ceci. J'ai travaillé plus de 20 ans au Royaume-Uni et je suis atterrée de découvrir les pratiques discriminatoires de nombreux employeurs français. En effet, a-t-elle remarqué, la discrimination au travail la plus fréquente et la plus tolérée concerne l'âge, me semble-t-il. Lors de ma recherche d'emploi en France, même les salariés de France Travail expliquaient qu'il était quasiment normal que les employeurs utilisent l'âge pour écarter des candidats. J'aimerais bien connaître le coût économique d'ailleurs de telles pratiques qui consistent à trier les travailleurs, non sur leurs compétences, mais sur des critères discriminatoires. On verra d'ailleurs, peut-être que vous saurez nous dire si on est les champions d'Europe ou pas en matière de discrimination.
On a plus de mal, je pense, à reconnaître la réalité des discriminations en France, parce qu'on a une promesse d'égalité et on n'y est pas encore, c'est une promesse. Du coup, je pense qu'on a plus de difficultés, effectivement, que les anglo-saxons à reconnaître ces discriminations. Peut-être que ce serait bien que je définisse ce qu'est une discrimination, parce que c'est quand même une notion juridique assez simple. Mmh. C'est une inégalité de traitement dans un des domaines prévus par la loi, qui peuvent être effectivement l'emploi, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, mais ça peut être aussi l'accès aux biens et services, et dans ces cas-là, ça peut être aussi bien l'accès à un restaurant qu'à une activité sportive, et dans un des critères prévus par la loi, et les critères peuvent être justement la question de l'origine, de l'orientation sexuelle, du fait d'être une femme, le handicap, la religion, voilà. Les critères sont variés, et ils sont 27. Ce qui me frappe en question de discrimination, c'est le non-recours massif. C'est-à-dire que les personnes sont victimes. En gros, un tiers de la population dit avoir été victime de discrimination. Et beaucoup de personnes ne font rien. Il n'y a aucune accusation de ma part là-dessus, parce que c'est difficile et qu'il y a des représailles. Permettez-moi de vous citer juste une étude qu'on avait menée avec les jeunes avocats et avocates, qui montre que 38% des avocats disent avoir été victimes de discrimination dans les 5 dernières années, dans les jeunes. Si on prend que les femmes, c'est 52%. Moins de 5% vont devant les tribunaux ou devant une institution comme le défenseur des droits. On a affaire à des gens qui connaissent le droit et qui n'y ont pas recours. La peur des représailles est omniprésente. On a l'exemple en ce moment d'une femme qui se plaint d'un harcèlement sexuel. Elle est licenciée pour dénonciation calomnieuse. Mmh. C'est ça la réalité de ce que vivent les victimes de discrimination.
Donc ça ne veut pas dire, faut pas prendre le problème à l'envers, même si vous êtes chef d'entreprise et que vous voulez nous appeler, nous parler de vos difficultés, vous êtes vraiment les bienvenus, mais si on prend le problème tel que vous le définissez, Claire Hédon, ça veut dire que ce sont les victimes qui n'osent pas se dénoncer et certaines entreprises en profitent très largement, en fait. Ou en tout cas s'engouffrent dans cette crainte-là.
Cette décision cadre, elle se veut constructive pour les employeurs qui eux-mêmes ont du mal à savoir l'enquête interne. C'est quoi ? Comment on fait ?
Alors, et donc, on va y venir. Alors, c'est vrai, vous avez raison, il y a plein de choses palpitantes, c'est constructif, mais quand même, 50 recommandations. Moi, j'ai pas pu m'empêcher, en lisant qu'il y en avait 50, de me dire,
Ça veut dire qu'il y a encore du boulot.
Eh bien oui, en fait, pourquoi on fait une décision cadre? C'est qu'on a rendu toutes ces dernières années des décisions où ce qui nous a frappé à chaque fois, c'est que l'enquête interne est mal menée. Elle n'est pas menée dans les règles en auditionnant les personnes avec des procès-verbaux. C'est absolument indispensable pour qu'il y ait des écrits, qu'il y ait une traçabilité. Toutes les personnes qui le font ne sont pas forcément auditionnées. Les personnes ne savent pas qu'il y a une cellule d'écoute et un endroit où on peut signaler. Ça manque de précision. Par exemple, dans les procès-verbaux, c'est juste mis geste déplacé. On a besoin de savoir plus précisément ce que c'est. Donc, ce qui nous a frappé...
Est-ce que ça veut dire qu'il faut l'inscrire, ça, par exemple?
Ah,
effectivement,
oui.
Tiens, geste déplacé, c'est une bonne question. Ça commence où
et du coup, quand on dit geste déplacé, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'a fait concrètement la personne comme geste déplacé? C'est important, pour pas que ce soit général. Donc, ce qui nous frappe, c'est un manque d'enquête interne, menée trop tard, menée trop... quand elles sont menées trop longtemps, manque de précision. Et puis après, des décisions d'employeurs qui nous étonnent, c'est que des plaisanteries, des propos sont considérés comme contribuant à une bonne ambiance, c'était des propos carabins, c'est pas grave,
c'est
ou ça. C'est arrivé
donc
qu'une
c'est,
fois.
C'est bien ce que je disais, bonjour 2025,
c'est
quand
ça.
Même.
Mais il n'y avait pas une volonté de nuire, c'était pour mettre une bonne ambiance. Enfin, ce genre de propos nous étonne toujours de la part d'employeurs, et donc notre objectif, c'est vraiment de dire un peu un mode d'emploi pour l'employeur de ce qu'il faut faire. Et à partir, effectivement, des réclamations qu'on a reçues, on s'est aperçu que ce n'était pas fait.
Alors, vous le dites, hein, mode d'emploi, donc vous rappelez, effectivement, vous l'avez dit, qu'il fallait une cellule d'écoute, un dispositif, des choses comme ça. Vous dites, par exemple, que le dispositif est accessible, et c'est bon que ce soit rappelé, à l'ensemble des agents salariés. Ça veut dire qu'on parle des contractuels, ça veut dire qu'on parle des CDD, ça veut dire qu'on parle des CDI, ça veut dire qu'on parle des fonctionnaires, ça veut dire qu'on parle des intérimaires, des stagiaires, des apprentis, des volontaires, des très jeunes en service civique. Tout le monde y a droit. Tout le monde a le droit. C'est pas parce que vous n'êtes pas CDI dans l'entreprise
absolument,
que vous n'avez pas le droit.
C'est pas non plus parce que vous êtes en sous-traitance dans une autre entreprise que vous n'y avez pas le droit. Toutes ces questions-là sont importantes. C'est une obligation d'avoir une cellule de signalement, de communiquer aussi cette cellule. Si vous ne savez pas qu'elle existe et il faut communiquer par plusieurs biais, c'est important là-dessus. Un référent sur ces questions-là peut être aussi la porte d'entrée. La question de la formation. Si, à partir du moment où on confie une enquête, ça peut être en interne comme en externe.
Alors, allons-y là-dessus. Est-ce qu'il vaut mieux est-ce que c'est une recommandation de faire appel à une société extérieure ou pas?
Très honnêtement, ça dépend des entreprises, ça dépend des équipes qui sont sur place, formées ou pas formées. Si on fait appel à des enquêteurs externes, il faut s'assurer qu'ils soient bien formés. Et bien formés, c'est aussi bien dans les questions qui sont posées, dans la façon de poser les questions, qu'aussi d'avoir des compétences juridiques.
Alors, donc ça veut dire attention aux arnaques des cabinets extérieurs et qui vous racontent que... Parce que la question que je me pose, Claire Edon, c'est que quand on est une petite structure, alors pas forcément 3 ou 4 parce que là effectivement ça devient compliqué, mais même 15, 20, 25, une entreprise comme la nôtre, comme Radio France,
il y a les effectifs
exactement,
qu'il faut pour
avoir
une cellule en interne.
Exactement, on sait comment ça marche.
Mais on peut avoir envie, même dans des grandes entreprises, de faire appel à une cellule externe à certains moments. Nous on dit pas, enfin je veux dire,
c'est
à l'employeur de voir.
Quand on est une petite entreprise, mais quand même d'une dizaine, d'une quinzaine de personnes, de toute façon, qui sait comment ça marche une enquête interne en fait? Est-ce qu'on sait réellement faire une enquête interne?
Non, c'est pour ça qu'on fait cette décision cadre. C'est vraiment pour, je dirais, un peu donner quand même un mode d'emploi de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Sur les petites structures, on a eu un exemple, par exemple, d'une petite mairie qui s'est associée à deux hôpitaux pour avoir une cellule de signalement et après pouvoir mener des enquêtes internes si c'est nécessaire. Donc la petite structure, elle a besoin dans ces cas-là de mutualiser avec d'autres.
Oui. Puisqu'on parle de petites structures, justement, pardon, je vous ai interrompu un peu sèchement, mais puisqu'on parle de petites structures, voici Hélène qui est à Paris, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Hélène.
Oui, alors moi je parlais d'une petite structure qui est plutôt une association,
okay.
Et on était sur une petite dizaine de personnes, on était au moins trois très très mal du fait du comportement du dirigeant, et quand on a essayé d'alerter la présidence, on a compris qu'il n'y avait pas d'écoute et que le conseil d'administration n'avait pas le temps de se pencher là-dessus, et que donc on demandait juste que ça tourne. Donc on s'est tourné vers, on ne savait pas vers qui, donc on s'est tourné vers le médecin du travail, qui nous a reçus et qui nous a dit qu'on était trop petits en fait pour prévenir l'inspection du travail, qu'on avait de quoi, mais qu'ils ne viendraient jamais s'occuper de nous parce qu'ils étaient dépassés. Qu'ils
vous
ne
la voyez pas, Claire Edon, Hélène, mais je peux vous dire que j'ai vu des sourcils monter. Hein.
Bon, en tous les cas, c'est ce qu'il nous a dit. Et en même temps, je lui en sais gré parce que ce qu'il a trouvé comme solution temporaire, ça a été de dire... Au moins, je veux montrer que je suis au courant et que je vous surveille. Et donc, je vais vous convoquer très régulièrement en visite chez moi pour qu'au moins la direction sache que je vous ai à l'œil.
Ça veut dire que
ça nous a permis de tenir quelques mois.
Il vous a convoqué et il a prévenu votre employeur qu'il vous convoquait, c'est ça l'idée en fait.
En fait, comme c'est le médecin du travail, ça passe par l'employeur. Donc, il savait qu'on voyait médecin du travail régulièrement. Et puis, bon, ça n'empêche que de guerre là, j'ai une collègue qui est partie faire un bébé, qui en a profité pour changer de boulot, une autre qui est partie avec un autre boulot, et moi j'ai fini en burn-out par une démission. Mais on avait l'impression que c'était la seule façon d'être un peu entendue et protégée, et qu'en même temps, bah, personne n'allait venir nous aider. Et
ça veut dire que ça veut dire que la confrontation avec votre employeur, c'est encore plus compliqué quand c'est l'employeur d'ailleurs. Elle n'a jamais eu lieu, Hélène.
Si, on est allé la voir, elle nous a écoutés toutes les trois séparément. Et ensuite, alors, il s'avère qu'elle était de formation avocate, et ensuite elle nous a convoqués ensemble, et elle nous a dit c'est des questions de ressenti, tous les ressentis sont entendables, et la direction n'a pas le même ressenti que vous, donc de toute façon, je ne peux pas donner suite à votre ressenti.
Voilà, le sentiment de harcèlement.
Alors Hélène, d'abord vous avez...
Hélène, merci beaucoup, vraiment Hélène, vous avez eu
un très bon réflexe. Allez voir le médecin du travail, c'est un très bon réflexe, et nous d'ailleurs, on préconise la place du médecin du travail dans ce genre de questions. Alors, c'est la petite structure doit quand même pouvoir agir, et par contre, la façon dont vous avez été ce qui est important à partir du moment où on démarre une enquête, et dans ces cas-là on reçoit, c'est qu'il y ait un procès-verbal, que les choses soient écrites, parce que c'est à partir de ça que l'employeur peut décider. La question après, j'entendais le mot confrontation, par contre ce qui est très important c'est de ne pas confronter la victime avec l'auteur. Et vous avez dit dès le début, très souvent la tendance c'est plutôt d'éloigner la victime alors que c'est l'auteur qui doit être éloigné. Et alors il y a toujours la tendance à se dire mais attention, il y a la présomption d'innocence. Mais mettre en télétravail ou éloigner ou mettre dans un autre service l'auteur supposé, c'est pas porter atteinte à cette présomption d'innocence. C'est juste l'obligation de l'employeur à une obligation de sécurité au travail et de sécurité sur la santé physique et psychique.
Alors vous parliez effectivement, Claire Hédon, de ces petites structures et du bon réflexe qu'avait eu Hélène d'aller vers la médecine du travail. Quand on est dans une petite boîte, comment on sait qui est mon médecin du travail ? Parce qu'en général, le médecin, évidemment, n'a pas qu'une entreprise dans ses cahiers, il y en a plusieurs. Comment on sait ? Comment on va aller chercher ces informations ? Est-ce qu'elles doivent être disponibles ?
Donc, du coup, indispensable.
Voilà, à un minima, pour les gens qui nous écoutent, qui sont dans une situation comme celle-là, qui n'osent pas trop dire à leur patron « j'ai un problème », mais qui ont quand même envie de le signaler, ils peuvent lui demander à lui... C'est qui notre médecin du travail ?
Normalement, ils sont même censés les savoir. Les avoir vus au début ou quand il y a eu des difficultés. Donc c'est indispensable et c'est une bonne idée de passer par le médecin du travail parce que le médecin du travail va faire aussi un certain nombre de préconisations à l'employeur. Et l'employeur, si jamais après l'affaire va devant les tribunaux, il va falloir qu'il justifie pourquoi il n'a pas suivi les préconisations du médecin. Donc c'est effectivement une bonne porte d'entrée. Et c'est pour ça que je dis que cette décision cadre, elle est utile pour les employeurs parce qu'ils ont un devoir de sécurité et de préserver la santé de leurs salariés. Et donc, c'est là-dessus qu'ils ont un devoir. Enfin, la question de l'obligation de mener une enquête interne, ça a été vraiment dit par le juge. Ce qui est vrai après, c'est qu'il y a par contre pas grand-chose n'est dit à l'employeur sur comment il faut qu'il mène cette enquête interne. D'où cette décision.
Ce qui est compliqué pour l'employeur également, vous le redites dans la recommandation, vous dites une déclaration anonyme reste une déclaration, donc on enclenche une enquête interne, y compris en cas d'anonymat. Après, encore une fois, imaginez, on est quatre quoi, dans la boîte. Comment ça marche ?
Ben, c'est plus compliqué. Non, mais il n'y a pas de doute que les petites entreprises et petites structures, c'est plus difficile. Mais vraiment, on a déjà un certain nombre de grandes entreprises ou d'entreprises moyennes dans lesquelles il n'y a pas les systèmes, alors que c'est une obligation de recueil des signalements. Partons aussi sur les plus grosses structures qui doivent mettre en place ce qu'il faut.
D'ailleurs, public ou privé, ou les deux, mon capitaine ?
Les deux, c'est obligatoire. Voilà.
Obligatoire, oui, mais dans les bons et les mauvais élèves, en fait.
Que ce soit dans le public ou dans le privé, des exemples. On ne peut pas dire qu'on en a plus dans l'un ou dans l'autre. Vraiment, c'est assez également réparti.
Julie est avec nous. Bonsoir Julie. Julie ?
Moi, je voulais apporter mon témoignage, vous m'entendez ?
Allez-y. Oui, absolument, oui. Allez-y.
Donc moi, j'étais enseignante à l'éducation nationale et j'ai eu des problèmes de harcèlement de la part du proviseur d'un collège. Et en fait, dans ce collège, j'étais responsable d'une ULIS, donc qui s'occupe de l'intégration d'enfants porteurs de handicap. Et en fait, ces enfants l'embêtaient, ça prenait de la place dans son établissement, et donc il a commencé à les discriminer, à refuser un certain nombre de droits auxquels ils avaient droit. Et moi, je me suis opposée à ça, et donc j'ai ensuite subi du harcèlement. Donc quand j'ai fini par faire un courrier en expliquant tout ce qui se passait, en quoi ce monsieur n'était pas du tout dans la loi, je n'ai eu aucun soutien de ma hiérarchie. Lui n'a rien eu. Et donc moi, on m'a muté sur un autre poste. Et donc je me dis, comment le privé peut respecter cette loi si déjà l'État lui-même ne le fait pas ?
Eh bien, voilà une bonne question.
Mais Claire, vous avez raison. Merci beaucoup, Julie. L'État devrait être exemplaire, ça, je partage tout à fait votre analyse. C'est toujours glaçant d'entendre que vous n'avez eu aucun soutien. Moi, j'entends dans votre voix l'effet que ça fait, et c'est vous qui êtes déplacé, et ce n'est pas l'auteur. C'est absolument insupportable. Quand est-ce qu'on pourra comprendre l'impact délétère des discriminations, du harcèlement discriminatoire sur les victimes ? Et comment ça ruine notre cohésion sociale ? Et pourquoi on a un intérêt à lutter contre les discriminations ? On a du mal à faire comprendre ça. Parce que c'est excessivement délétère pour la santé physique et psychique des personnes.
Mais là, je repense au cas de Julie, par exemple. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire de plus ? Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire de mieux, Julie ? Ben, s'il y a vraiment personne autour, en effet, pour l'appuyer ?
Franchement, je ne sais pas de quand date votre histoire, Julie, mais effectivement, la prise en charge n'a pas été correcte. Nous, on incite à nous saisir dans ce genre de situation. Voilà, il y a un numéro de téléphone, le 3928, un site internet, antidiscrimination.fr, et puis derrière, on voit ce qu'on peut faire. Je ne fais pas de promesse, mais au moins quand on enquête, souvent pour la victime, elle se dit « je suis entendue ». Quelqu'un va me dire que c'est pas normal ce qui s'est passé, la façon dont j'ai été traitée. Et puis en fait, c'est aussi très utile pour l'employeur, pour ce lycée en question, sur ce qu'il faudrait faire pour qu'il y ait une meilleure, ou ce collège, pour qu'il y ait une meilleure prise en charge. Parce que le but, en fait, au bout du compte, c'est quand même d'être pédagogique, que ça ne se reproduise plus.
Il y a Christelle qui pose cette question, et au fond, ça rejoint la question de Julie, mais la question précédente aussi sur WhatsApp, et qui dit mais quand le harceleur est l'employeur ?
Mais oui,
comment
ça arrive.
Quand c'est le patron ?
Et ben oui, c'est bien sûr que ça arrive, mais il y a toujours, dans ces cas-là, normalement est prévu, et c'est une obligation, un endroit où on peut faire un signalement, et effectivement, ce genre de situation est plus grave et plus complexe. Et puis voilà, les recours devant les tribunaux, une institution comme la nôtre, peut être aussi une possibilité, mais c'est pour ça que j'ai voulu vous citer le chiffre sur les jeunes avocats et avocates et le non-recours. Sur les questions de discrimination, de harcèlement discriminatoire, on est face à un non-recours massif. Parce qu'on a du mal à regarder les choses en face, parce qu'on déplace les victimes, qu'il y a des représailles, je vous en ai cité, et déplacer une personne, comme ça a été le cas pour Julie, ça s'appelle des représailles. Oui. Et quand vous dénoncez une discrimination ou un harcèlement discriminatoire, vous ne devez pas être victime de représailles. C'est dans la loi, ça.
Ouais, c'est ça. Et moi, c'est la recommandation numéro 14. En fait, la défenseur des droits recommande l'interdiction des représailles. Que l'interdiction des représailles, soit rappelée par écrit par l'employeur à la victime présumée, au témoin, et ce, le plus tôt possible. Mais enfin, quand je lis ça, j'ai envie de dire, mais il faut vraiment leur dire ça, quoi.
Mais oui, non, bien mais sûr. Il faut leur dire ça, il faut aussi leur dire l'aménagement de la charge de la preuve. Parce que très souvent, et c'est une question qui est un peu compliquée, mais en gros, je vous l'explique en discrimination.
Allez-y.
Vous êtes enceinte, vous rentrez de votre congé maternité et vous êtes licenciée à ce moment-là. Comment vous dire qu'il peut y avoir un petit lien avec la grossesse et que donc, c'est à l'employeur de prouver qu'il n'a pas voulu discriminer. C'est ça l'aménagement de la charge de la preuve au civil. Mmh. Et donc ça aussi, dans l'enquête, c'est à expliquer. Parce que très souvent, l'employeur nous dit dans l'enquête, mais en fait, la victime n'a pas prouvé ce qui s'est passé. Mais il y a très souvent un certain nombre d'éléments.
Le faisceau, ça suffit, dites-vous, c'est dans les recommandations.
Exactement. Ouais. Le faisceau suivi. Des propos qui ont été dits à d'autres endroits et à d'autres, une atmosphère générale suffit, et dans ces cas-là, c'est à l'auteur de prouver qu'il n'a pas voulu faire un harcèlement discriminatoire.
On est en train de parler de discrimination dans l'entreprise, dans le travail, avec Claire Hédon, qui est la défenseur des droits, dans le téléphone sonne, et avec vous, Antoine, bonsoir.
Oui, bonsoir madame, bonsoir mesdames d'ailleurs.
Bonsoir.
Bonsoir à vous Antoine, voilà. Il paraît que vous avez arrêté votre voiture, ça devient une constante, au téléphone sonne, on est ravis. Allez-y.
Alors déjà, c'est parce que vos équipes me l'ont demandé.
Ah, bravo.
Ils ont bien fait attention à ça, donc je les remercie pour l'action sécurité.
Voilà, bravo, c'est une recommandation du téléphone sonne, on vous écoute.
Donc oui, je voulais vous faire part d'un cas récent, donc dans mon entreprise, une grande entreprise, hein, il y a eu un cas de harcèlement qui s'est révélé être vrai suite à l'enquête du service de ressources humaines. Donc l'enquête a été très bien faite, rapide, et ça a conduit au licenciement de la personne fautive. Donc ça, c'est très bien, il n'y a pas de problème. La difficulté qui a été après, c'est que on a été laissé un peu tout seul avec ça dans le service, avec la victime qui est revenue. Et c'est parfaitement normal qu'ils reviennent. Mais il n'y a pas eu d'accompagnement complet de la part des ressources humaines en disant voilà ce qui s'est passé. Et c'est tout. Donc, il y a eu beaucoup de rumeurs qui sont arrivées. Il y a eu un peu de malaise parce que c'est quand même quelque chose qui secoue beaucoup l'organisation. Et ça, c'est un petit peu compliqué. Alors, je ne sais pas si c'est aussi dans vos recommandations.
Absolument. Si, Antoine, c'est aussi nos recommandations. Et c'est très intéressant ce que vous racontez, puisque, en fait, toute la première partie enquête et tout ça s'est bien passé. Mais en fait, il faut aussi donner le résultat de l'enquête. Et le résultat de l'enquête, évidemment, à la victime, évidemment, à l'auteur, mais aussi au service.
On a le droit de faire ça. C'est pas confidentiel.
Il y a une partie qui est évidemment confidentielle et qui peut pas être répétée. Mais expliquer ce qui a été fait, pourquoi telle décision a été prise. Parce que l'objectif aussi, c'est que ça ne se réitère pas avec d'autres, quand bien même la personne, l'auteur a été licencié. Donc ce retour est indispensable et vous soulevez l'importance de ce retour aussi aux équipes et pas simplement à la victime.
Antoine, puisque vous êtes encore là, vous êtes tombé de votre chaise quand vous l'avez appris, c'est-à-dire que ça a été une surprise pour tout le monde, ou est-ce qu'au fond, vous vous êtes tous dit, on se doutait un peu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ce gars ou avec cette fille, je ne sais pas. Et du coup, vous vouliez essayer de comprendre plus, c'était quoi le contexte hein?
Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est du personnel, etc. Alors moi, je suis quelqu'un d'extrêmement naïf, je tombe toujours de ma chaise sur ces sujets.
Ouais, mais vous, tant mieux, restez-le, a priori, c'est une preuve de bonne santé.
C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que tout le monde tombe de sa chaise et après on se dit ah bah oui c'est évident quand on vous l'explique. Il y a eu des fonctions et après on s'est dit tiens mais au fait j'avais entendu parler de ça etc.
Et vous avez été nombreux à être entendus dans le service ou pas?
Au moins une demi-douzaine de personnes.
Et c'est vraiment ce point-là, il est important, c'est d'entendre suffisamment de personnes, mais donc ces personnes, elles ont besoin de retour, une fois qu'il y a eu une enquête interne. Qu'est-ce que ça a donné? Quel résultat?
Vous signalez d'ailleurs dans les recommandations, non seulement vous parlez des retours, mais vous parlez aussi de la potentielle et possible dégradation de l'état de santé, la personne qui a signalé les faits, parce que sur la durée, parfois c'est le rapporté,
c'est très lourd.
Y compris un retour d'ailleurs, quand on a été un peu mis de côté et qu'on revient derrière, lorsqu'on est la victime. Donc le médecin avant, le médecin pendant, le médecin après.
Exactement,
aussi,
hein. C'est vraiment très important et l'explication aux équipes. Dans les documents, il y a aussi l'enquête interne, on a bien vu, c'est toute la partie audition des personnes, mais il y a aussi des documents qui peuvent être apportés et c'est important de savoir que l'enregistrement clandestin peut être utilisé. Être utilisé par les victimes sur des propos à caractère sexuel ou raciste. C'est souvent le seul moyen de le faire, et quand il n'y a pas de témoin, donc c'est quelque chose qui est admis et qui a été admis par la Cour de cassation et qui peut être admis dans des enquêtes internes.
Lorsqu'il y en a des témoins, quand on veut accumuler en disant il m'a traité de ça à tel moment, puis à tel moment, toujours dire qui était autour,
oui,
aussi pour pouvoir dire est-ce que j'étais seule, est-ce que je n'étais pas seule, etc. pour pouvoir...
On a eu aussi des situations où les propos ont été tenus en dehors de l'entreprise.
Ça marche pareil.
Et ça marche pareil, exactement.
C'est comme un accident du travail.
Ça
marche entre le travail et le domicile aussi.
Vous avez un point entre collègues, à partir du moment où c'est finalement dans un cadre, certes à l'extérieur de l'entreprise, mais qui réunit des personnes de l'entreprise, ça compte.
Voici Soizic, qui est en Normandie. Bonsoir Soizic.
Bonsoir.
On vous écoute.
Alors moi, c'est pas du tout du harcèlement. Mais en fait, je suis enseignante et j'ai une anomalie génétique cardiaque qui fait que j'ai dû être opérée et maintenant j'ai une prothèse, tout ça, qui fait que je suis reconnue en travailleur handicapé à vie. Mais j'ai pas de conséquences autres qu'une grosse fatigue. Et jusqu'en juin 2024, j'étais à temps partiel avec un aménagement de poste. Et donc, depuis juin, on a refusé pour la nouvelle rentrée, là, que je bénéficiais à nouveau de cet aménagement de poste. Ce qui fait que j'avais qu'un choix, soit je me mettais à temps partiel, comme une personne valide, sauf que j'ai pas du tout les moyens d'amputer mon salaire d'un quart de sa valeur. C'est pas possible pour moi, j'ai deux enfants, enfin bref, la maison, tout ça. Deux enfants étudiants et donc soit ça, soit je reprends à temps plein ce que j'ai fait pour être payée à 100%, Médicalement, je me rends compte que ça va pas être possible. De toute façon,
de ce que vous nous racontez, Soisy, que vous avez un médecin qui vous a dit vous ne pouvez pas travailler à temps plein.
C'est ça. Voilà, exactement. C'est ça. Et donc j'ai contacté les syndicats qui ont essayé de défendre mon cas, mais ça n'a pas été possible. Et j'ai contacté le défenseur des droits. Et qui m'a dit, mais de toute façon, il va bien falloir qu'elle accepte les conséquences financières du temps partiel. Mmh. Mais sauf que c'est double peine, parce qu'en fait...
Parce qu'il y a Claire Hédon qui me regarde bizarre, là. c'était quand à quel moment vous avez été chercher le défenseur des droits?
Eh ben, au printemps, là, 2024, puisque c'est au printemps 2024 que j'ai appris qu'on ne renouvelait pas mon aménagement de poste.
Je veux bien en antenne avoir du coup quand même vos coordonnées, qu'on creuse un peu qu'est-ce qui s'est passé, parce que moi ma première réaction, mais j'ai pas tous les éléments, à vous entendre, d'abord la question du handicap dans l'institution en discrimination, c'est le premier critère nombre.
C'était ma question, vous l'avez devancé.
Exactement.
J'ai le droit de me mettre à temps partiel, ils peuvent pas me le refuser.
Non, ça bien sûr, mais vous la question c'est que en fait entre guillemets, vous ne pouvez pas physiquement être à temps complet, et nous les préconisations c'est plutôt que l'employeur doit suivre ce que dit le médecin et le médecin du travail, si vous êtes considéré ne pouvant pas travailler à temps complet. Donc, ça vaut le coup qu'on se repenche sur votre question. En tout cas, vous dire aussi, donc, la question du handicap, c'est quand même le premier critère dans les réclamations que nous avons. Ça ne veut pas dire en nombre en France, mais en tout cas dans les réclamations qui nous arrivent. L'autre chose qui est frappante dans votre histoire, c'est que la question du handicap, elle est arrivée au cours du travail. C'est-à-dire, sur la question de l'emploi des personnes handicapées, on dit beaucoup qu'elles n'arrivent pas à accéder à l'emploi. Nous, ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas un aménagement raisonnable du poste de travail. Et l'histoire de Soisic, c'est ça. C'est la question de l'aménagement raisonnable du poste de travail. Et l'aménagement raisonnable, ça peut justement de ne pas être à temps complet.
Je voudrais quand même revenir sur ce chiffre, parce que moi, il me fait tiquer beaucoup. Alors, cela dit, vous me diriez que c'est le racisme, que c'était le racisme en tête, ça me ferait tiquer pareil. Mais pourquoi le handicap et
le premier critère dans les réclamations, grande mobilisation des associations dans le monde du handicap qui accompagnent les réclamants.
D'accord.
Je pense aussi que la preuve sur le handicap est parfois plus facile. Et après ça, si vous additionnez, en fait, dans l'origine, vous additionnez la religion, l'apparence physique, vous arrivez aussi finalement à un chiffre qui est du coup supérieur au handicap. C'est aussi la façon de compter. Mais je pense que ça dit quelque chose de la mobilisation des associations dans le monde du handicap et que je salue parce qu'ils nous aident beaucoup aussi pour lutter contre les discriminations.
Mathis est avec nous. Bonsoir Mathis.
Bonsoir.
On vous écoute ?
Oui, bonsoir. Moi, je vous ai écouté. Alors, je suis assez d'accord avec vous. Moi, je suis RH dans un entrepôt logistique à peu près 300 collaborateurs. Et moi, j'ai mené deux enquêtes pour harcèlement et pour agression sexuelle sur l'année 2024. Alors, je suis d'accord avec vous sur la procédure à suivre. Hein. C'est à peu près ce que je fais également. Des procès-verbaux pendant les auditions, surtout des attestations de témoins officiels. Pour pas que la personne puisse se rétracter après aussi sous la pression de d'autres salariés. Il y a juste une chose, c'est que moi j'ai mené une enquête où il y avait du harcèlement, mais on n'avait aucun témoin direct à part la victime qui nous donnait sa version d'essai et pas de preuves matérielles. Alors bien évidemment, les deux collaborateurs aujourd'hui ne travaillent plus ensemble, mais le présumé auteur est toujours dans l'entreprise parce que, faute de preuves, je ne peux pas faire de sanction disciplinaire.
Et alors, c'est intéressant ce que vous racontez, parce que dans ces cas-là, il y a une vigilance à avoir, évidemment, sur la personne en question pour savoir s'il réitère ou ne réitère pas les genres de propos ou de gestes. Donc, il y a une attention particulière à avoir. J'ai juste une question, Mathias, dans les procès-verbaux que vous faites, procès-verbaux que vous faites, est-ce que vous les avez justement fait par écrit?
Oui, en fait, je le fais par écrit et moi, je reprends mot pour mot ce que le témoin me dit. Je n'essaie pas de transformer les phrases. J'écris et à la fin de l'entretien, je le fais relire au témoin. et puis je le fais signer.
Mmh. Donc vous voyez, il y a des employeurs très très bien.
Aucun doute là-dessus. Après, ce que je trouve intéressant dans le cas de Mathis, et j'entends bien ce qu'il nous dit, il y a eu une vraie enquête, les deux personnes ont été séparées, mais de fait, donc ça veut dire qu'on a cru la victime, de fait, puisqu'on a séparé ces deux personnes, mais la deuxième forcément reste dans l'entreprise, parce qu'il n'y a rien pour étayer sa culpabilité.
Tout à fait, mais je ne sais pas quelle a été la réaction de la victime, mais à partir du moment déjà où on l'a entendue, on a pris en considération ce qu'elle a dit, ce sont déjà des étapes importantes en général pour la victime, et puis le bon réflexe, c'est au moins que les deux personnes ne travaillent pas dans le même secteur, c'est quelque chose d'important. Et ce qui est important aussi, parce que sur certaines histoires, et c'est l'agression sexuelle qui m'y fait penser, il peut y avoir, la victime a pu porter plainte et il peut y avoir un procès. Et la tendance de l'employeur peut être à certains moments de dire... La justice est saisie, donc moi je ne fais pas d'enquête interne. Et ça, nous, ce qu'on préconise, c'est pas parce qu'il y a la justice saisie et une affaire au pénal qu'il n'y a pas une enquête à faire en interne, et surtout protéger la victime.
La justice est très très lente, évidemment, la pauvre, hein, par ailleurs, et les tribunaux sont débordés. Est-ce que lorsqu'il y a une enquête judiciaire, parce que ça a été très grave et qu'il y a vraiment une enquête judiciaire, pendant ce laps de temps-là, est-ce que l'employeur, malgré tout, a le droit de séparer les deux employés ou pas ?
C'est pas le droit, il doit.
Il a le devoir de le faire.
Il a le devoir de le faire, en parallèle, parce qu'il n'en fera pas forcément les mêmes conclusions. Et puis, il a de toutes les manières un devoir de protection de ses salariés ou de ses agents. Et donc, déjà, le réflexe de ne pas faire travailler les personnes au même endroit, et il peut y avoir suspension, demande pour l'auteur d'être en télétravail, et si ce n'est pas possible, suspendu. Il y a plusieurs possibilités.
Vous dites d'ailleurs, ça fait partie aussi des recommandations, que lorsque les enquêtes internes sont faites, il faut qu'elles soient faites vite.
Oui.
Vous donnez même un délai.
En tout cas, qu'elles démarrent dans les deux mois.
On essaye de donner,
parce qu'on a vu des enquêtes internes qui ont mis plus d'un an à démarrer, on a vu des enquêtes internes qui durent un an. Enfin, les deux choses, c'est qu'il faut qu'elles démarrent vite et qu'elles soient faites bien, certainement, mais relativement rapidement, qu'elle ne traîne pas en longueur.
Un cas d'école, c'est Julie sur WhatsApp qui dit ceci. J'avais un rendez-vous d'embauche qui a été annulé lorsque l'un des décisionnaires s'est aperçu que j'étais enceinte de 8 mois. J'ai toujours vécu cela comme une discrimination. Il était clairement formulé qu'il ne voulait pas, qu'il voulait quelqu'un de disponible immédiatement. Donc il était clairement formulé qu'il voulait quelqu'un de disponible immédiatement. Est-ce que c'est de la discrimination ?
Oui, bien sûr. Discrimination pour l'état de grossesse, ça fait partie des critères des 27 critères sur la loi sur les discriminations, et oui, parfaitement, ça s'appelle une discrimination en raison de la grossesse. Elle le nomme tout à fait correctement, et c'est très mal vécu par les personnes.
Philippe, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Philippe.
Oui, bonjour, je vous appelle pour apporter un témoignage de ma situation. Je travaille dans une structure publique, et il y a 3 mois maintenant, j'ai appris qu'une personne que je supervisais avait fait un signalement pour harcèlement moral de ma part. Et donc, cette personne n'a pas été écartée ou quoi que ce soit. Je pense qu'elle a été protégée, et c'est très bien. Par contre, moi, je me retrouve depuis 3 mois et demi sans aucune nouvelle, ni de la procédure, ni de réponse à mes demandes de contact ou messages de la part de ma hiérarchie. Et donc j'ai l'impression à mon tour d'être, comme diraient les adolescents, ghosté ou mis à l'écart et de ne pas savoir ni ce qui se passe, ni quelle serait la suite.
Et vous avez été sorti de votre entreprise, Philippe ? C'est-à-dire ces 3 mois ?
Non, pas du tout.
Ah, vous êtes toujours
tout.
Dedans, d'accord. Vous êtes toujours dans la structure au moment où on se parle, d'accord.
Oui, tout à fait. Mais j'ai pas de... Disons que quand vous soumettez un dossier, vous n'avez pas de réponse ou voilà.
Et on vous a pas dit si une enquête interne a été démarrée ?
Non,
rien.
Aucune information.
C'est important, ça fait partie aussi des conseils et des recommandations que nous faisons, c'est qu'à partir du moment où une enquête démarre, il faut évidemment que la victime soit au courant, que l'auteur présumé, on garde évidemment toute la présomption d'innocence, soit aussi informé. Après, il est possible dans une enquête interne, et même peut-être parfois préférable, d'entendre d'abord la victime, l'entourage, un certain nombre de personnes, et l'auteur supposé ensuite. Mais par contre, vous devez absolument être tenu au courant, parce que ça, c'est une situation qui est délétère pour tout le monde. Et vous avez demandé, vous avez posé des questions, on ne vous répond pas ?
Non, on m'avait dit qu'on me tiendrait au courant et on ne tient pas du tout au courant. Et dans le reste du travail, c'est comme si je n'avais plus de réponse, comme si j'étais mis à l'écart moi-même.
Et vous demandez par écrit, Philippe, j'imagine.
Ouais.
Parce que, effectivement, on parlait des recours pour les victimes, Claire Hédon, pour les présumés harceleurs. Le recours, c'est quoi pour Philippe, en fait?
Et c'est effectivement une situation qui n'est pas simple. D'abord parce qu'il faut aussi le dire, il peut y avoir des dénonciations calomnieuses. C'est évident que ça peut arriver. Et c'est pour ça que nous recommandons qu'à la fois la victime et l'auteur présumé soient tenus au courant de ce qui se fait, ne soient pas laissés dans l'incertitude, parce que c'est délétère pour tout le monde dans ce genre de situation. Donc oui, revenir auprès de l'employeur et essayer de savoir où ça en est, c'est parfaitement légitime.
C'est légitime, mais est-ce que c'est pas de toute façon obligatoire pour l'employeur à un moment?
Non, il doit
y avoir un moment, de toute façon, partir du moment où il y a eu une dénonciation. Est-ce que ça peut vouloir dire qu'enquête interne, il n'y a pas eu, donc du coup, on ne sait pas...
Effectivement, on ne sait pas, dans nos recommandations, c'est une information qui doit être donnée à l'auteur présumé.
Vous voyez, on a Marie sur WhatsApp qui dit « Moi, j'ai jamais reçu les résultats de l'enquête menée en interne, et mon avocate non plus, d'ailleurs, c'est ce qu'elle nous dit. »
Alors, on observe, et c'est aussi pour ça qu'on a fait cette décision 4, qu'en fait, il y a des employeurs qui sont très embarrassés une fois qu'il y a eu l'enquête interne et qui ne savent pas très bien quoi faire et quelle suite donner, et qu'il peut y avoir une tentation d'enterrer l'affaire et de ne pas aller plus loin.
Il y a Bettina qui a une question pertinente aussi qui dit est-ce que une personne accusée de harcèlement, à quel moment, j'ai envie de dire plutôt, Bettina, pardon, j'ai modifié votre question, à quel moment une personne accusée de harcèlement peut se présenter avec un avocat?
Alors, ce qui est important, c'est que dans le cadre, par exemple, de l'enquête interne, vous pouvez tout à fait demander que ce soit l'auteur ou victime à être accompagné et, okay. à ne pas être seul.
L'intérieur de l'entreprise, on va être convoqué à l'intérieur de l'entreprise.
C'est bien de faire appel dans ces cas-là au syndicat, à quelqu'un d'autre dans l'entreprise, et voir à quel moment on peut ou pas être accompagné d'un avocat.
Qu'est-ce qu'on attend, Claire Hédon, une fois que les 50 recommandations ont été mises sur la table, qu'on a donc remis noir sur blanc, les gens qui nous écoutent pourront aller voir sur le site, il y a des choses qui sont extrêmement basiques, on en a cité beaucoup, d'autres un peu moins, mais on est vraiment dans le bon sens, en fait, dans beaucoup de cas.
Il y a vraiment une urgence à agir pour lutter contre les discriminations, et ça se joue à plusieurs niveaux, dont celui des employeurs et dont le rôle de cette enquête interne. Voilà, c'est vraiment le message principal à passer. On est dans une situation de non-recours et on ne va pas en plus reprocher aux victimes de ne pas aller ou devant les tribunaux ou devant notre institution, et donc il faut les accompagner, et cette enquête interne, c'est vraiment un des moyens. Et puis il y a une obligation, je le répète, de l'employeur de préserver la santé physique et psychique de ses salariés et de ses agents.
Voilà, obligation de conserver la santé physique et psychique, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup de votre passage chez nous, Claire Hédon. Merci à tous pour vos nombreux appels. Je voudrais, pour la jolie semaine, et comme d'habitude, remercier au 18-20 Pierre de Certaines, Nathalie Poitvin et Marie Kévin qui s'occupent de la programmation. Philippe Lefébure en est le rédacteur en chef. C'est Ludovic Asselot qui a assuré cette semaine la réalisation. Julie Deltaï est aussi à la doc et à la technique ce soir. Au 18-20, il y avait Philippe Duclos et Fabrice Desmaz.